C'est d'adaptation dont nous allons parler aujourd'hui. Cette capacité à accepter les changements que la vie nous impose et cette faculté de changer ses habitudes pour en adopter de nouvelles. Le parcours de Jonathan Serrada, de la Belgique à Bali en passant par l'Espagne et Paris, nous démontre que tout est possible où que l'on soit. Bonjour Joe!
Bonjour Nancy, bonjour tout le monde.
Ça me fait tellement plaisir, Joe, de t'avoir. Merci de me soutenir dans ce projet et d'accepter de témoigner de ton parcours parce qu'il est hyper riche en diversité. Alors, avant d'être la nouvelle star d'M6 en 2003, est-ce que tu peux nous raconter comment tu as choisi cette voie artistique qui t'a mené très très jeune à te former, notamment à l'Opéra Royal de Wallonie, n'est-ce pas ?
Eh oui, c'est classe, hein, dit comme ça.
Mais ouais, ça le fait.
Ben écoute, j'ai pas la sensation d'avoir choisi ce chemin artistique. Je pense qu'il est venu de manière innée. Mes parents, d'ailleurs, me disaient souvent que je chantais déjà avant de savoir parler. Et j'entends par là que je faisais des sons, des notes, que je chantonnais alors que je n'avais pas encore prononcé mes premiers mots en français. Et donc, en fait, j'ai eu la chance aussi d'avoir des parents qui m'ont toujours soutenu et encouragé dans cette voie. Ça ne leur a fait pas du tout peur, en fait. Donc, très rapidement, c'est vrai que j'ai intégré l'Opéra Royal de Wallonie après avoir passé une audition. Et j'ai fait partie de la maîtrise, donc c'est les enfants de chœur en fait de l'opéra à qui on fait appel dès qu'on a besoin d'enfants pour des opéras, que ce soit pour le chant d'abord évidemment, mais aussi la figuration. Et puis on avait aussi à côté nos propres spectacles de la maîtrise de l'Opéra Royal de Wallonie. Donc c'était une formation assez complète. On avait l'occasion de chanter les airs d'opéra, donc c'est-à-dire dans toutes les langues en fait. Hein. Moi j'ai commencé par Carmen, donc en français, Carmen de Georges Bizet. J'ai fait la flûte enchantée de Mozart. Des opéras en italien comme la Bohème, une école magique sur laquelle j'ai appris plein de choses sur le plan artistique, humain évidemment, parce que c'était chouette, c'était comme une espèce de grande colonie de vacances et à la fois quelque chose de très sérieux puisqu'on était rémunéré, parce qu'on finissait très tard le soir quand on avait des représentations, donc on avait des horaires un peu adaptés ensuite avec l'école. C'était quelque chose d'extraordinaire, j'ai des souvenirs incroyables grâce à l'opéra.
Alors du coup c'est bien parce que j'apprends que toi aussi comme mes enfants tu devais chanter pour t'endormir. Et c'est ça que tes parents ont dû te dire après, que tu chantais déjà avant de parler, et beaucoup d'enfants font ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à 3, 4 ans, 5 ans, tu prenais déjà un micro et tu chantais sur les tables devant ta famille, ou pas du tout ? C'est arrivé plus tard, ça ?
Complètement. Je pense même que c'est arrivé un peu plus tôt. Hein. On a des vidéos, parce que mon père, on a grandi avec un papa qui avait toujours son caméscope pas loin. Et donc, c'est génial, parce qu'on a plein de souvenirs, du coup, plein de vidéos de notre enfance. Et dans plein de vidéos, on me voit avec un micro à la main. Alors, le micro, c'était ce qui me passait par la main. Hein. Et je pense que c'est même arrivé encore plus tôt. C'était quelque chose d'inné, en fait. C'était une manière pour moi de communiquer, comme l'est le langage pour tous les autres enfants, en général.
Tu es né chanteur, c'est ça. C'était une vocation, donc on peut le dire. Et donc, tu as fait ton petit bonhomme de chemin. Et ce qui est vraiment super drôle dans tout ça, bon, déjà, je voudrais que tu mettes des vidéos de toi petit quand tu chantes sur les réseaux sociaux, parce que ça, on adore. Donc ça, vraiment, c'est le challenge pour 2021, ok, Joe? Mais alors, ce qui est vraiment marrant, c'est que toi et moi, on est amis et on a quasi démarré notre carrière en même temps. Moi, je commençais chez RTL et je me souviens que le producteur à l'époque de l'émission Fan Club, qui est grand directeur maintenant chez RTL, a reçu ta cassette où tu chantais du Shakira. Donc, comme quoi, toi et moi, on était fait pour se rencontrer. Et puis, quelques mois plus tard, finalement, tes démarches finissent par payer puisque tu intègres le casting de la Nouvelle Star. Waouh! Ça te fait quoi ?
Oui, c'est assez dingue. Et en même temps, comme je disais plus tôt, mon papa qui m'a toujours soutenu était un espèce de mentor, c'était un espèce de manager, il faisait de secrétaire d'agent en fait. Il avait toutes les casquettes avec moi et c'était une période où je faisais énormément de casting. Donc il faut se rendre compte qu'on habitait en Belgique, donc c'était énormément de kilomètres parce que bien souvent les castings étaient quand même à Paris. Et quand le casting de la Nouvelle Star est apparu, en fait pour moi c'était un casting de plus. J'étais habitué déjà à être très souvent à Paris, notamment à l'époque c'était beaucoup les comédies musicales. Et c'était une période où j'allais très souvent en phase finale. Je me souviens, pour les Demoiselles de Rochefort, j'étais dans les deux derniers. Et pas de chance, on avait choisi un autre chanteur à ma place. J'étais souvent considéré comme trop jeune, en fait, pour les rôles. Et la Nouvelle Star était un des premiers castings. Il y avait eu la Star Academy juste avant, qui avait fait un grand bruit. Et la Nouvelle Star était le premier casting qui était ouvert aux mineurs. Donc, il ne fallait pas pour une fois avoir 18 ans. Donc, ça m'arrangeait. Et on est allé donc passer le casting avec mon papa. Et en fait, j'ai cru que c'était un casting comme un autre, qui allait m'attendais pas forcément à aboutir. Ça veut pas dire que je partais des pétistes, loin de là, mais voilà, en fait, je m'attendais pas du tout à passer toutes les étapes avec succès. Et j'ai été vraiment très surpris. Ça a été fulgurant, en fait. Tout est allé très, très, très vite, pris dans un espèce de tourbillon, à passer les étapes jusqu'à la grande finale, 10 juillet 2003, qui a bouleversé ma vie, changé ma vie.
Incroyable. Alors moi, je me souviens, hein. Je voulais te dire
que je t'attends. Et oui, oui, c'était une chanson que je chantais déjà bien avant La Nouvelle Star. Je me souviens qu'à l'époque, j'avais proposé cette chanson parce qu'en fait, quand on préparait les primes, on avait chacun un CD qu'on nous donnait avec quelques chansons qui potentiellement, parmi lesquelles il fallait choisir notre chanson du prime. Et pour ce prime-là, aucune ne me bottait, aucune ne m'inspirait grand-chose. Et donc, j'ai proposé spontanément, je voulais te dire que je t'attends. Et la prod, je pense le directeur artistique à l'époque de l'émission, m'avait dit, ouais, c'est quand même pas très très connu, ça fait pas partie des grands hits de la chanson française, mais bon, faisons un essai avec le pianiste, tu vas nous la chanter et puis on verra si... Et en fait, ça leur a beaucoup plu et ils m'ont dit, ok, banco, on te laisse la faire sur le prime. Donc c'était une idée à moi, je suis plutôt fier d'avoir proposé cette chanson qui finalement avait marqué le jury, le public, l'émission et qui est devenue après, ils m'ont proposé de la choisir comme premier single de ma carrière.
Oui, d'ailleurs, ça a cartonné hein, quand tu l'as sorti, hein. Je vais retrouver les chiffres, mais ça avait super bien marché ce single.
C'est dingue. Moi, je me suis arrêté à 500 ou 600 000 exemplaires.
C'est ça.
Mais ça a été énormément de ventes. Ça a été un vrai raz-de-marée. Beaucoup de gens connaissaient déjà la chanson et puis il y a aussi d'autres personnes qui l'ont découvert grâce à ma chanson et qui pensaient d'ailleurs que c'était pas une reprise.
Que c'était à toi. Mais tu te l'es tellement bien approprié, tout comme les cravates. Hein. C'était des cravates du coup que tu mettais. Ça crée vraiment un personnage. Tu vois, des fois, on se rend pas compte, mais on lance quelque chose, on devient précurseur de quelque chose. Et déjà à ce moment-là, t'étais précurseur parce que tu t'étais déjà rendu compte qu'il fallait proposer plus qu'une voix. Il fallait non seulement bien interpréter, mais en plus, il fallait proposer un personnage qui correspondait à ta personnalité. Et je crois que c'est ça qui a fait que t'as marqué tout le monde.
Moi, je savais très tôt que effectivement, un chanteur ne s'arrêtait pas à sa voix ou à sa manière d'interpréter ou même son physique. Il fallait à tout prix marquer les gens. C'était une question aussi, c'est du marketing. Ça l'est devenu de plus en plus avec les années. Aujourd'hui, chaque chanteur qui apparaît nouveau sur le paysage musical arrive avec une identité aussi un visuel très fort, très marquant.
Oui.
Et très tôt, j'avais étudié le marketing à l'école. Hein. J'étais en secondaire, j'étudiais le marketing. Donc, c'était quelque chose pour moi qui me paraissait évident. Et bon, et la cravate, oui, c'est vrai que je me suis dit, ça marquera, ça fera la blague. Et puis, mais je pensais pas du coup qu'on en parlerait autant après la diffusion des castings. Et je me suis dit, ça a fonctionné. Donc, à partir de cet instant, j'ai porté la cravate sur chacun des primes, la cravate à la taille.
Oui, et puis c'était, je pense, à un moment donné, tu pouvais pas t'en passer parce que c'était devenu ton porte-bonheur. Tu sais, on a tous un peu ça. Et Jennifer, tu te souviens, à la Starac, elle portait des bandanas. Cette image d'association de l'artiste qu'on aime avec un objet, M en l'occurrence, lui par exemple, c'est carrément sa coiffure, mais c'est un gros pire, on va dire, pour le faire un peu à la belge, puisqu'on est belge tous les deux, on peut se le permettre, qui fait que l'artiste marque encore plus. Bien joué, Joe, parce que de là, se sont passées énormément de choses.
Oui, déjà, à partir de là, ma vie avait déjà pris un sacré tournant. Elle avait changé du jour au lendemain, du noir au blanc, c'est-à-dire que je me suis installé à Paris. On avait déjà anticipé les choses, ce qui prouve bien que mes parents étaient vraiment d'un soutien extraordinaire. C'est-à-dire que La Nouvelle Star est arrivée, j'étais en réto, c'est-à-dire en terminale, je crois qu'on dit en France. Donc mes parents avaient anticipé, ils avaient déjà cherché un appart pour moi. Et ils avaient acheté un studio. Ça te laisse imaginer le sacrifice et l'investissement financier que ça a été pour eux. Parce que mes parents, on vient d'une famille modeste, on roule pas sur l'or. Hein. Mais donc, ils m'avaient acheté un petit studio. Parce que, j'étais fin d'année scolaire. Hein. Donc, il était prévu qu'en septembre, j'allais m'installer à Paris. Et donc, ça a juste un peu précipité les choses. Et je me suis installé à Paris. Et c'est vrai que de là, je suis devenu chanteur professionnel à temps plein.
C'était t'as fait donc plein de choses. La comédie musicale de Charles Aznavour. Je me voyais déjà avec Laurent Ruquier, qui était producteur à l'époque. Tu as même fait des voix dans Robot. Tu as fait l'Eurovision. Ouh, qu'est-ce qui se passe pour qu'à un moment donné, tu te dises, finalement, j'ai quand même envie de changer de vie. Il faut que tu me racontes tout ça.
qu'à un moment donné, le soufflet retombe parce que ce genre d'émission propose un nouveau gagnant chaque année et que le nouveau gagnant remplace un petit peu le précédent. C'était une époque où, voilà, tous les ans, ça s'enchaînait. Et donc, du coup, je pense honnêtement que pour revenir un petit peu à cette étape de succès, je pense que la maison de disques ne m'avait pas choisi et ne m'aurait peut-être pas signé d'elle-même si je n'avais pas gagné l'émission. Donc, j'ai senti qu'au bout d'un moment, j'étais pas non plus une des priorités, un des artistes prioritaires du label. Et j'ai senti qu'il voulait pas spécialement bosser. Enfin, c'est pas que je l'ai senti, c'est qu'on m'a exprimé clairement. Il ne voulait pas bosser sur un troisième album. Donc, j'ai repris ma liberté. C'est là que j'ai un peu plus, paradoxalement, fait mon métier de chanteur parce que finalement, j'étais rentré dans un engrenage où on fait beaucoup de promos, mais c'est pas faire son métier, faire de la promo en télé, hein, se montrer, faire des émissions radio. C'est bien sympa, mais c'est pas là qu'on s'exprime artistiquement. C'est vraiment sur scène qu'on s'exprime en tant qu'artiste. Et donc, j'ai un peu plus fait mon métier. J'ai fait de la scène à partir de là, beaucoup plus qu'auparavant. Et j'ai fait les spectacles musicaux comme Rimbaud ou Je me voyais déjà. Mais bon, je me suis rendu compte qu'en fait, j'aimais profondément chanter, j'aimais composer, faire des chansons, mais j'étais un petit peu en décalage avec le milieu que je trouvais un petit peu difficile,
prout, prout.
Hypocrite. Alors c'est... ouais, aussi... ça me correspondait pas en fait. J'étais pas heureux. J'étais dans une démarche trop cérébrale où j'essayais de convaincre mon label de bosser sur un troisième album. Alors j'essayais d'aller un petit peu là où le vent me menait, c'est-à-dire je me sacrifiais artistiquement en me disant tiens, en ce moment c'est la mode des chanteurs pas tellement à voix, plutôt des chansons à texte. Donc j'étais parti en essayant à plein de projets artistiques différents, plein de styles musicaux, et en fait je me perdais complètement artistiquement en essayant de plaire aux uns et aux autres.
Mmh. C'est ce qu'on a aimé chez toi, c'est ce que t'étais toi au plus profond de toi, le Jonathan Cerrada qu'on a vu à la Nouvelle Star, où il n'y avait rien, il n'y avait pas de marketing derrière, que celui que toi tu t'es créé, et c'était ça que le public voulait, je pense.
Je pense que c'était ça, mais c'est arrivé très tôt, j'avais 17 ans. 17 ans, on est un enfant, on n'est pas construit en tant qu'adulte, on est là face à une équipe de plein de gens qui t'entourent, qui sont des professionnels, donc à qui tu as envie de faire confiance, et tu fais confiance, et puis finalement, ce sont des humains, ce sont des gens aussi qui parlent business plus que d'artistique. On n'a pas les mêmes objectifs, et donc du coup, j'étais de plus en plus en décalage avec eux.
Et avec toi ?
Je m'étais un petit peu avec moi, totalement. Et avec le temps, je m'étais découvert une passion pour le bouddhisme, une passion aussi pour l'Asie, parce que j'y avais voyagé, j'étais tombé en amour pour Bali, et donc j'ai eu envie de quelque chose de totalement nouveau, d'un pays où on ne connaissait pas, pouvoir me trouver artistiquement, humainement, même pas artistiquement en fait, parce que je suis arrivé à Bali, je voulais pas du tout faire de musique, je me suis lancé dans complètement autre chose, mais voilà, j'avais envie d'un renouveau, de mettre un stop à ce schéma où finalement je ne savais plus très bien si je voulais continuer dans la musique ou si je le faisais parce que finalement je n'avais jamais connu que ça, j'étais bon qu'à ça, j'avais pas encore découvert que je pouvais être bon à autre chose parce que j'avais commencé la musique quand j'étais un enfant et qu'on m'avait pas poussé mais accompagné très fortement dans cette direction. Alors, à aucun moment de ma vie, je m'étais éventuellement posé la question de est-ce que je serais capable de faire autre chose? Est-ce que j'avais ne serait-ce qu'envie de faire autre chose? Donc, Bali, pour moi, c'était l'occasion de me découvrir sur tous ces plans-là.
Magnifique parcours, hein. Déjà jusque-là, incroyable. Et ce qui est bien, c'est que tu as une capacité énorme de prendre du recul et de l'accepter, en plus. C'est ça qui est génial. Parce que moi, je te connaissais déjà à l'époque. Donc, quand tu es parti à Bali, pour le coup, on était déjà amis. Et j'ai trouvé ça tellement courageux. Quoi. En plus, ce qui est fou, c'est que tu vas là-bas et réellement, je peux en témoigner sans vouloir chanter, mais que la chanson est quand même revenue à toi. Donc, on va un petit peu en reparler. Donc, non seulement t'as appris le Bahasa Indonesia, si je répète bien ce que tu m'as dit tout à l'heure en off, parce que la langue de Bali, c'est vrai que je ne suis pas experte en tout ça. Donc, tu as chanté cette langue, tu as joué dans un film dans cette langue, tu as créé ta propre marque que tu as encore, dont on va parler aussi. Comment as-tu fait? Parce que tu t'es quand même retrouvé dans un autre pays, avec des repères qui étaient à zéro, pour le coup, à part les repères touristiques, mais ça n'aide pas pour la vie de tous les jours. Donc, pour tous ceux qui rêvent de changer de vie, dis-nous un peu comment on peut faire un moment pour oser faire le pas, parce qu'en plus, là c'était sûr, pour toi, tu ne refaisais pas la même systématique professionnelle à Bali que ce que tu as fait à Paris. Donc c'est un changement de vie total et radical.
Oui, c'était un changement de vie radical, mais en même temps, je n'ai pas du tout la sensation d'avoir été courageux en fait, parce que je n'avais pas la sensation non plus de quitter quelque chose auquel je tenais. Moi, ma vie à Paris, elle a duré 13 ans. J'ai eu la chance pendant ces 13 ans de vivre de ma passion, de la musique, même si j'étais un peu moins exposé les dernières années, je continuais à vivre de ça, mais j'avais plus du tout envie de ça. J'étais plus très heureux à Paris. Surtout, à force d'aller à Bali, je me sentais de plus en plus en décalage. Lorsque je revenais à Paris, je me demandais un petit peu ce que je faisais là. Donc, j'étais heureux d'être à Bali. Donc, du coup, avec cette envie de commencer quelque chose de nouveau. Et j'avais commencé déjà au préalable à faire de l'artisanat, à confectionner des pochettes, des ordinateurs, tout ça. Mais pour mon entourage, je commençais un petit peu à en vendre par le bouche à oreille à Paris. Et je me suis dit, je vais aller à Bali, je vais le faire à fond. En fait, en plus, c'est une île où l'artisanat est fort présent, où on le retrouve au coin de la rue. Les gens sont très artistes et font beaucoup de choses de leurs mains. Donc, j'étais dans le pays idéal pour développer ça. Voilà, j'ai développé un peu mes techniques. Je me suis peaufiné aussi pour rendre mes créations un peu plus professionnelles. Quand je me suis senti prêt, j'ai lancé la boutique en ligne. J'ai cherché des points de vente sur Bali pour pouvoir proposer mes créations là-bas. Et puis voilà, petit à petit, ça a fonctionné. Parallèlement à ça, je dois dire aussi que je ne vivais pas exclusivement de mon art puisque j'avais construit une villa que j'avais mis en location pour les vacanciers. Ça a aussi très bien fonctionné tout de suite. Donc avec ces deux activités, finalement, je me suis construit ma petite vie, j'étais très heureux et fatalement j'ai appris le bahasa parce que c'est normal en fait d'apprendre la langue dans le pays dans lequel tu vis. Je trouvais ça complètement délirant parce que c'est vrai, il y a beaucoup d'expats qui sont là-bas et qui connaissent pas l'indonésien et je trouvais ça complètement absurde, complètement fou en fait. Et pour moi, c'était le meilleur moyen de m'intégrer aux gens. Donc voilà. Je l'ai appris. Pour être tout à fait honnête, le bahasa indonésien n'est pas une langue très compliquée. C'est-à-dire qu'il faut étudier beaucoup de vocabulaire. Grammaticalement parlant, ce n'est pas très compliqué dans le sens où il n'y a pas de conjugaison. Donc, j'ai emmagasiné beaucoup, beaucoup de vocabulaire et petit à petit, voilà, j'ai réussi à tenir des conversations. Alors, ce n'était pas des conversations très, très compliquées. La conversation au quotidien avec les gens que je pouvais croiser dans la rue, c'était presque suffisant. Et du coup, la musique, en fait, est revenue de manière assez naturelle, juste pour l'amusement, en fait. Pour l'amusement. Disons que c'était une espèce de
d'échappatoire
et de médicaments aussi pour aller mieux parce que j'étais dans une période aussi où sentimentalement j'étais en train de souffrir énormément. Et donc j'ai commencé à faire de la musique pour me sentir mieux et pour déjà dire à mon cerveau arrête de réfléchir et l'occuper à quelque chose de concret. Donc je me suis mis à composer et comme souvent moi je suis pas auteur, je fais de la musique en utilisant du yaourt, donc c'est-à-dire un anglais très approximatif qui pour la plupart du temps ne veut rien dire et cet anglais est destiné à être remplacé ensuite par un vrai texte, soit en anglais, en français ou peu importe. Et je m'étais lié d'amitié avec un auteur, un écrivain là-bas, indonésien, à qui j'ai proposé de faire des textes en anglais. Et il me dit, pourquoi on ne s'essayerait pas à faire des textes en indonésien, au moins sur une chanson, juste pour voir ce que ça donne. Ça pourrait être quelque chose de rigolo et quelque chose d'original, parce qu'ici, il n'y a pas eu de boulets. Les boulets, en fait, c'est comme on nous appelle là-bas, c'est les étrangers, en fait. Il n'y a pas eu de boulets chantant en indonésien. Donc, je me suis dit, écoute, pourquoi pas.
De boulets, c'est drôle, ça, parce que chez nous, c'est hyper péjoratif.
Là-bas, c'est B-U-L-E. Ça n'a absolument rien à voir avec nos boulets à nous, quand on dit de quelqu'un que c'est un boulet. Il n'y a rien de péjoratif, mais voilà, c'est comme ça qu'on nous appelle là-bas. C'est rigolo. Et en fait, on s'est mis à faire une chanson qui racontait un petit peu ma rupture et voilà, cette période difficile que je traversais. Donc, c'était quelque chose de très, très, très autobiographique. Et en fait, ça m'a beaucoup amusé. Donc, on s'est mis à faire 2, 3, 4, 5 chansons et finalement, on a fait un paquet de chansons en indonésien. Et dans la foulée, je me suis dit, je vais les partager en fait, parce que bon, c'est bien gentil de se faire plaisir, mais à un moment donné, si je peux faire plaisir aux quelques personnes qui continuent à me suivre, c'est tant mieux. Donc, je voulais les partager, je les ai partagées. J'ai partagé la première chanson. Et là, en fait, ça a été complètement inattendu, mais j'ai fait un espèce de buzz. Parce que j'avais fait un petit clip pour accompagner la chanson et le clip s'est retrouvé sur une page Instagram comme un peu E-Entertainment, cette chaîne de people, mais ils parlent aussi de polémique, de tout ce qui peut faire du bruit en Indonésie. Et ils ont partagé mon clip. Et de là, en fait, ça a été un truc sensationnel et complètement très rapide où, dès le lendemain, j'avais des propositions, des invitations sur des plateaux télé. Et ça s'est enchaîné, et on m'a vu énormément à la télé là-bas, et j'ai fait un espèce de buzz, en fait, qui m'a mis dans une dynamique de nouveau, de chanteur, à faire de la promo. Ça m'a un petit peu amusé, mais j'ai trouvé ça quand même très, très stressant, Et je retrouvais un petit peu tous les travers que j'avais connus à Paris. Du milieu artistique qui finalement était le même, en fait, constitué du même type de personnalité, du même type de gens dans lesquels je ne me retrouvais pas. Mais bon, je trouvais ça quand même malgré tout amusant de se retrouver là-bas et qu'on m'invite. J'étais quelque part un peu honoré. Donc je disais oui, j'ai même été invité en tant que guest star de la nouvelle star indonésienne, qui est un truc immense. Là-bas. Il faut se rendre compte que l'Indonésie est un pays immense comparé à la France.
Mais c'est d'autant plus incroyable que t'as réussi sans le vouloir. Parce que tu vivais un moment difficile, donc on est dans un jour une autre histoire, hein, tu vois, tu vis un moment difficile, tu fais un truc sans rien vouloir derrière, c'est juste parce que t'en as besoin, toi, dans tes tripes. Et puis ce truc-là, bang, il t'apporte quelque chose d'inimaginable, et c'est d'autant plus fort parce que c'est tellement incroyable ce que tu nous racontes et ce parcours de vie là où d'un coup tu te retrouves propulsé en Inde alors que tu n'étais pas du tout parti pour ça. Donc comme quoi, il faut avoir beaucoup de recul dans la réussite quelque part. Parce qu'en fait, quand tu veux, il n'y a rien. Et puis quand tu veux pas, mais que tu fais juste avec le cœur, c'est là que ça marche.
C'est vraiment totalement ça. J'étais vraiment abasourdi de ce qui se passait parce que je n'avais absolument rien cherché. Et du coup, j'ai un petit peu comparé ça à ce qui s'est passé avec la nouvelle star des années plus tôt. Pour moi, je m'étais présenté au casting sans... Enfin, j'y croyais, mais c'est-à-dire que pour moi, c'était juste un casting de plus. Je n'étais absolument pas persuadé que j'allais aller aussi loin et encore moins gagner. Et en fait, je pense sincèrement que le fait de ne pas désirer les choses, mais de les faire avec honnêteté, avec le cœur, a payé dans les deux cas, en fait. Et je mets ces deux expériences vraiment en parallèle et je les trouve vraiment très similaires. Alors que le soufflet, c'est... un peu redescendu à la suite de la nouvelle star des années plus tard, j'étais déjà moi dans une autre dynamique où j'étais pas très heureux dans le milieu dans lequel j'évoluais. Je me rendais compte que c'était pas fait pour moi et les choses ne marchaient plus parce que je les faisais plus avec le cœur, je les faisais pour satisfaire, parce que j'étais dans une dynamique où je n'avais jamais connu que la musique, donc fatalement, il fallait que je continue, il fallait que je fasse plaisir à la famille, il fallait que je fasse plaisir à mes parents, il fallait que je fasse plaisir au label, à l'entourage, aux fans, parce qu'en fait, le fait de gagner la nouvelle star, quelque part, tu te sens redevable. Les gens ont voté pour toi. Les gens t'ont permis d'accéder à ce statut de star, ce statut qui te permet de vivre de ta passion, ils t'offrent une vie incroyable, en fait. Et quelque part, je me sentais, à tort, redevable de tout ça.
Oui, donc à Paris, tu te sentais un petit peu redevable, c'était une normalité pour toi de continuer, tu croyais que tu étais obligé de le faire, alors qu'à Bali, tu es parti à la base pour faire ce qui te plaisait. Et du coup, tu t'es reconnecté à toi et tu t'es retrouvé à nouveau dans la musique sans le vouloir. C'est ça qui est incroyable, jusqu'à en faire un film à un moment donné, grâce à ce buzz-là, je pense.
Oui, et du coup, oui, effectivement, un jour, des producteurs me proposent un rôle dans un film, me proposent de passer des essais. Et ça a été une expérience assez incroyable aussi, parce que je ne l'ai pas souhaité, qui me fait penser, du coup, que en fait, comme j'étais totalement libre, j'avais pas cette pression aussi de plaire, de réussir. J'avais pas non plus la pression financière puisque ça se passait bien de ce côté-là grâce à mon artisanat et les maisons. Du coup, en fait, les choses venaient naturellement. Et ce film, je dois dire, a été une expérience incroyable qui m'a un peu réconcilié avec le milieu artistique. Sur le plan humain aussi, j'ai rencontré des gens incroyables. Et ça a été le challenge de ma vie. Je pense honnêtement que c'est la chose la plus difficile que j'ai eu à faire sur un plan artistique, dans le sens où, franchement, moi, mon indonésien est très basique. Pour le chanter, c'est facile parce que chaque son est lié à une note, donc c'est très facile de retenir un texte sur une chanson. Mais quand il faut le parler, quand il faut le dire dans des dialogues, là, c'est une autre affaire. En plus, mon personnage parlait impeccablement indonésien dans le film, donc c'était un challenge sur le plan linguistique assez difficile à relever. Et j'ai dû fournir énormément de travail, mais je me suis vraiment littéralement éclaté. Et j'en tire beaucoup de choses positives.
Ce qui est génial dans ce parcours, c'est que tu changes de vie et ça fonctionne. Mais après, on arrive à quelque chose d'assez récent. La crise sanitaire frappe. Et elle frappe bien sûr le monde du tourisme, qui est quand même ce sur quoi tu as misé quand tu es parti, en te disant c'est ce qui va me permettre de faire un petit peu d'autres choses en parallèle, mais quand même la base c'était le tourisme pour toi. Donc tu es impacté, et puis là, grosse remise en question. Il n'empêche que changer de vie pendant la crise Covid, c'était pas non plus gagner d'avance. Donc comment est-ce que tu as fait pour trouver des ressources et pour être résilient quelque part par rapport à cette vie-là qui ne ressemblait plus à ce que tu as connu?
Oui, c'est vrai que le Covid nous a tous surpris. Nous, en l'occurrence, à Bali, on a énormément souffert parce que du jour au lendemain, il n'y avait plus de touristes. L'île était complètement déserte. Donc, ça voulait dire que mes maisons ne se louaient plus. Mais aussi, sur le plan des créations, il n'y avait plus de gens qui venaient, qui rentraient dans les boutiques. Donc, je ne vendais plus, non plus sur place. Avec ça, la boutique en ligne a dû aussi stopper son activité parce que la poste ne continuait plus ses activités non plus. Donc, j'étais bloqué à tous les niveaux. Plus aucun revenu. Et ça, depuis le mois de mars, en fait, je me suis dit, mais c'est quand même compliqué d'être tributaire du tourisme et d'un secteur aussi qui, a priori, devrait pas souffrir autant. En tout cas, bon, on peut toujours avoir des crises, des crises économiques qui font que les gens voyagent moins. Mais à ce point-là, stopper du jour au lendemain, c'était assez flippant. Je pense que, avec du recul, ça a été juste un accélérateur de quelque chose qui se présageait déjà, qui pointait le bout de son nez. C'est-à-dire que l'Europe me manquait quand même de plus en plus.
D'autant plus que tu es papa. Et donc, forcément, le fait d'avoir un enfant, on pense différemment aussi, je crois, non ?
J'avais envie que mon petit grandisse entouré de ses grands-parents, de son cousin, de ses cousins-cousines, de ses oncles et tantes. Et on se sentait un peu isolé là-bas. Et je me suis dit, certes, j'ai fait le choix de vivre à Bali, mais lui ne l'a pas fait, ce choix. À Bali, c'est un peu marche ou crève. Si tu ne travailles pas, il y a zéro roupie qui rentre sur ton compte parce qu'il n'y a pas d'aide sociale, il n'y a pas de chômage, il n'y a rien du tout. Donc, moi, certes, j'avais fait ce choix. C'était fabuleux. Franchement, c'est une très belle vie à Bali que j'avais. Mais j'avais envie que mon fils puisse grandir un peu plus encadré, avec un peu plus de sécurité, proche de la famille, qu'il puisse aussi faire de bonnes études, faire les activités extrascolaires qu'il souhaiterait faire, parce que s'il souhaite faire de la musique, là-bas c'est un peu plus compliqué, du théâtre ou quoi que ce soit en fait. Et puis une chose qui me manquait énormément à Bali, je dois le reconnaître, c'est l'accès à la culture. Pouvoir aller dans des musées, au théâtre, voir une comédie musicale, une exposition, tout ça c'était des choses qui n'étaient pas possibles là-bas, et qui sont quand même pour moi assez vitales, assez essentielles. Donc au bout d'un moment, c'est des choses qui me manquaient. Donc j'ai fait le choix de rentrer, mais je ne me voyais pas rentrer à Paris à nouveau. Pour moi c'était une étape que j'avais déjà vécue, qui a duré 13 ans, que j'ai adoré, vraiment. Paris est une ville extraordinaire, j'ai toujours beaucoup d'amis et des attaches, mais c'était une étape que j'avais déjà vécue. Je voulais quelque chose de nouveau. Et paradoxalement, rentrer à Liège, c'était aussi quelque chose de nouveau pour moi, parce que je n'avais jamais vécu à Liège en tant qu'adulte. Je vivais chez mes parents, donc mes trajets c'était de la maison jusqu'à l'école, de l'école à l'académie et de l'académie à chez mes parents à nouveau. J'avais très peu de vie sociale parce que j'étais j'étais focus sur la musique, sur mon théâtre, sur ma diction, sur mes cours de déclamation. Mon planning était assez incroyable en fait. Finalement, vivre à Liège en tant qu'adulte, je l'avais jamais vécu. Donc ça me semblait une expérience inédite que j'avais envie de vivre. La vie m'a appris qu'il n'y a rien de définitif non plus, faut jamais dire jamais. Qui sait où je serai dans quelques années, mais pour l'instant en tout cas, j'ai envie de me reconnecter aux sources, d'être proche de ma famille. Je pense que ça fait du bien à tout le monde, ça me fait du bien à moi, ça fait du bien à mes parents, à mes frères et sœurs, et c'est tout frais parce que ça fait jamais 2 semaines que je suis dans mon appartement, mais voilà, c'est quelque chose
de génial
qui fait du bien à tout le monde.
Moi je suis ravie, ouais, et puis je suis ravie pour ton fils aussi, parce que il va grandir entouré d'une famille, et quand ils sont petits, je trouve que c'est important. Je suis exactement face à ça aujourd'hui, en train de me dire, ça fait des mois que je suis bloquée avec la Covid-19, puisqu'on dit là maintenant, on voit plus les choses de la même manière quand on ne peut plus voir sa famille tous les mois à faire 300 km parce qu'en gros on n'a plus le droit. Et ça, c'est vrai que c'est très très dur à vivre, et je trouve que tu as fait un très bon choix, comme tu l'as dit, parce que rien n'est durable. Si on a envie à un moment donné de changer, on peut changer, et c'est là où c'est bien, parce que tu as une vraie capacité de rebond, parce qu'en fait tu sais que où que tu sois, tu y arriveras. Et je crois que là, dans ce moment de ta vie-ci, c'est le meilleur endroit où tu puisses être avec ta famille. Mon cher Joe, ce que j'aime aussi chez toi, pour moi t'es le casting Un jour une autre histoire type, parce que ton histoire est géniale. Il y a 50 000 autres histoires dans ton histoire, dont celle de maintenant, où à mon avis tu vas encore faire de grandes choses. D'ailleurs, est-ce que tu continues? Je crois que tu continues ta marque. On peut être livré pour Noël rapidement, puisque du coup c'était à Bali, donc maintenant est-ce que c'est en Belgique pour la livraison? Est-ce que ça peut aller plus vite?
Oui, tout à fait, les délais du coup sont beaucoup plus courts, beaucoup plus faciles, et effectivement je continue mon activité ici de création artisanale, parce que de toute façon j'aime ça. ça, j'aime le faire. Pour moi, c'est une espèce de méditation, de travailler avec mes mains. C'est mon espèce de bulle et j'y prends énormément de plaisir. Ça reste artistique, ça reste créatif et ça, j'adore. Donc, ça goupille pas mal de choses. J'ai aussi envie, pourquoi pas, de me reconnecter un peu plus à la musique. Alors, ce sera jamais sur un plan professionnel parce que je ne veux plus ça, mais pourquoi pas refaire des chansons, les partager sur les réseaux, les mettre en ligne, les vendre aussi, pourquoi pas. Mais en tout cas, sans la pression de l'industrie musicale que j'avais à l'époque sur mes épaules.
Et c'est pour ça que tu es très bien en Belgique pour le faire. J'y crois beaucoup. Ça te correspond. Donc, si là, au 13 décembre, je commande dans ta boutique, je peux avoir mon sac personnalisé avec les photos de mes enfants, parce que maintenant, j'en ai 3, donc il m'en faut un nouveau pour les fêtes de fin d'année.
C'est possible. Les délais restent un petit peu courts, mais je travaille d'arrache-pied en ce moment parce que c'est vrai que c'est une bonne période. J'ai beaucoup de commandes avec les fêtes. Et puis surtout, j'ai du travail à rattraper puisque j'ai pas pu bosser pendant des mois lorsque j'étais à Bali en plein Covid. Donc voilà, je mets les bouchées doubles en ce moment.
Continue. Alors, il y a le créatif, mais il y a aussi le Joe philosophe. Tu l'as dit, tu aimes le bouddhisme et tu aimes écrire des messages de temps en temps. Tu écris notamment en anglais « Celui qui ne tombe pas ne se lève pas » ou encore « Nous créons nos propres vies ». C'est très profond, c'est véridique et ça te correspond. Tu en es où aujourd'hui dans ta philosophie de vie ?
Bien, j'essaye toujours, c'est difficile hein, parce que ça reste un travail de tous les instants, de quotidien, de faire fonctionner son cerveau de manière positive parce que malgré tout, on a chacun nos névroses. Moi, je ne suis pas libéré de toutes mes peurs et je pense qu'il faut toute une vie pour s'en libérer totalement. Je crois que vraiment des grandes tragédies, parce qu'on en a vécu, on a vécu le décès de mon frère, notamment, qui est quand même, je pense, la grande tragédie de notre histoire chez les Serrada. Il y a toujours quelque chose de positif à retenir. Julian m'a appris en nous quittant qu'il fallait pas que je vive pour faire plaisir aux uns et aux autres. Il fallait que je prenne ma vie en main, mon destin en main. Il m'a fait partir à Bali. Je pense que quelque part, c'est aussi lui qui m'a fait revenir parce que j'avais vécu ce que j'avais envie de vivre à Bali. Et donc maintenant, j'étais prêt, grâce à toutes mes armes, à revenir ici en tant qu'adulte et personne qui avait grandi. Et voilà, et j'étais prêt à vivre d'autres choses. Donc voilà, je pense que on passe tous par des moments difficiles, mais il faut essayer d'en tirer des leçons, quelque chose de positif et d'avancer avec ça.
D'ailleurs, voilà. Est-ce que tu as envie de nous partager quelque chose, une citation, quelque chose que tu as lu ou quelque chose que tu as envie de dire là, à l'approche des fêtes de fin d'année, de particulier ?
Soit le changement que tu veux voir dans le monde, ce qui pourrait changer le monde, les choses énormément. On a tous besoin de bienveillance, on a tous besoin d'amour, d'être soutenu. C'est comme ça qu'on s'épanouit le mieux. Et en fait, on obtient des gens... en fait, on reçoit lorsque l'on donne. Je l'ai pu le constater dans plein de plans, sur plein de niveaux. Et donc, je pense fondamentalement que, par exemple, en faisant preuve de bienveillance, qui est une notion un peu désuète quand même, malgré tout, quand on dit de quelqu'un « il est gentil », c'est devenu quelque chose un peu péjoratif, ce qui est quand même complètement fou. Donc voilà, en faisant preuve de bienveillance, je pense qu'on attire aussi la gentillesse, les gens, les bonnes intentions. Et voilà, c'est le message que j'aurais envie de délivrer.
Tu as raison, parce que ça vient de nous, le changement. Faut pas attendre que ça vienne de l'autre. Et souvent, les critiques qu'on a à l'encontre des autres, c'est ce qu'on est nous-mêmes. Donc si on change soi-même, l'autre, on dirait qu'il change, mais en fait, c'est pas lui qui change, c'est nous. Et tout ça, c'est du développement personnel. Et c'est pour ça que j'adore partager ce genre d'histoire avec des personnes comme toi, parce que c'est très enrichissant. Je te remercie, Joe. Je te souhaite plein de bonnes choses. Et maintenant, on va faire un petit FaceTime avec les enfants.
Merci à toi, Nancy. C'était un plaisir.
Je t'embrasse. Et en cette période où l'on se demande à quelle sauce l'on va être mangé, ce parcours est un bel exemple qui prouve que quand on veut, on peut, à condition d'accepter le changement et puis surtout de s'adapter au moment présent. Préparez-vous bien pour les fêtes. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à la semaine prochaine. Ku kan tetap bernapas tanpamu.